Au cœur du chaos, la résistance d'un chrétien en Orient, c'est le titre d'un ouvrage paru chez Albin Michel, entretien avec le patriarche Béchara Rai, réalisé par Isabelle Dillmann. Isabelle Dillmann, journaliste grand reporter, auteur du livre d'entretien avec le patriarche cardinal Béchara Boutros Rai, nous parle de l'engagement du patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. Cette personnalité qui parle sept langues n'a pas la langue de bois pour dénoncer le jeu des puissances étrangères et de Daesh. Avec une force intérieure synonyme d'espérance, ce chef religieux adresse au monde un message de résistance spirituelle. Voici la première partie de la conférence d'Isabelle Dillmann, enregistrée le 30 septembre 2017 à l'abbaye de Belloc.
Alors c'est évidemment un sujet vaste, que je vais traiter le mieux possible en partant dans le fond de ce qu'est mon expérience, qui n'est ni celle d'une experte, ni celle d'une théologienne, ni celle d'une spécialiste, mais celle d'une personne, et comme je sais qu'il y aura ensuite une deuxième partie avec des questions, si cela vous intéresse, on pourra en parler plus, qui depuis toujours a eu comme mission, s'est donné comme mission, de témoigner tout en ayant un double parcours, à la fois entretenir une foi, ce qui n'est pas si facile, et faire un métier dans un monde journalistique dont je surnomme plutôt l'engeance journalistique, car je n'y ai pas toujours trouvé les échos que j'aurais aimé. Et donc je me suis spécialisée très vite dans les grands entretiens. Dans les grands entretiens, ça fait exactement 30 ans que je fais ce métier. J'en parlerai si vous voulez plus tard, si ça vous intéresse, mais ça a démarré par Mère Teresa. Ensuite, le Dalai Lama avec qui j'ai vécu, j'ai retrouvé Fidel Castro à Cuba. J'ai passé plus de 17 jours avec le Dalai Lama dans l'Himachal Pradesh. Et en fait, c'est ce qui m'intéressait, pas toujours d'ailleurs des figures de lumière et aussi quelques figures d'ombre, mais qui sont des gens aussi très intéressants. Les grands entretiens que j'ai menés avec Muammar al-Kadhafi, notamment le très beau regard du commandant Massoud, le président afghan. Ce qui me passionne beaucoup, si vous voulez, c'est de faire ce métier avec ma touche personnelle, en m'investissant complètement et en essayant de rapporter, de transmettre quelque chose que peut-être vous ne trouvez pas dans ce qu'on appelle ce métier, qui est un métier très cadré, où les journalistes sont des gens intelligents, mais malgré eux, bien qu'ils se réclament beaucoup d'une certaine objectivité, malgré eux, ont une tendance à la subversion. Je crois qu'on s'en rend compte de plus en plus. Donc c'est un parcours un peu atypique, pas toujours facile, mais qui m'apporte des joies, comme de voir qu'il y a des assemblées qui viennent, pour que je puisse témoigner, continuer à témoigner, non seulement de ce travail qui a nécessité une bonne année de temps. Sachez aussi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, que rencontrer ces personnalités-là, ces vrais individus, ces gens qui nous font progresser, c'est une chose difficile. Il faut être à la fois discret, tenace et vigilant. Et quand vous avez ce privilège, qui est aussi une responsabilité comme tout privilège, quand vous vous trouvez en face ou à côté ou aux côtés, comme je l'ai été du patriarche pendant des jours, voire des semaines, il s'agit d'être à la hauteur. Et croyez-moi bien, un personnage comme le patriarche Rai, que j'ai choisi de rencontrer, ce ne sont pas des personne ne me demande, c'est moi qui choisis. Je l'ai choisi parce que dans ce monde de la chrétienté d'Orient, il est une figure majeure de la chrétienté d'Orient. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais je vous le dis quand même en deux mots. Parce qu'il est à la tête de ce qu'on appelle l'église maronite. Je vous parlerai un peu de cette histoire de l'église maronite, parce qu'on va voyager un peu ensemble, qui est la communauté catholique d'Orient la plus importante au monde. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer un peu comment je vais fonctionner. Au départ, je vais partir de la situation actuelle des chrétiens d'Orient. C'est complexe. Je comprends votre éventuellement vos confusions ou votre... C'est très difficile car il y a une grande diversité, il y a une grande pluralité. Il y a eu beaucoup de rêves d'unité dans différentes périodes de l'histoire qui ont fait couler aussi beaucoup de larmes. Et évidemment, les églises d'Orient n'échappent pas à cette règle de la diversité qui n'est pas toujours dans l'unité. Ce qui ne vous complique pas à vous la tâche pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc je vais d'abord vous situer géographiquement et pour ce faire, je lirai les notes que j'ai prises parce que ce sont des chiffres et je veux être précise. Et ensuite, je vais lâcher mes notes et je vais vous apporter le meilleur de ce que je peux vous apporter, comme si je ne parlais qu'à une seule et même personne. Alors, l'un des énormes enjeux est la capacité des chrétiens, vous l'avez compris, à rester sur leur terre. Cette terre, c'est là où est née leur foi. car les chrétiens d'Orient sont les dépositaires d'une mémoire que l'Occident a perdue ou dont il ne veut plus se souvenir. Ils sont, les chrétiens d'Orient, les témoins d'une part de notre culture ancrée dans leurs racines. Si on comprend ça, on comprend qu'oublier les chrétiens d'Orient revient à s'oublier soi-même. Car c'est en Orient qu'est né le christianisme. C'est le berceau du christianisme. Frère Jean-François parlait de la Gaule. La Gaule a été évangélisée par saint Irénée qui arrivait de Smyrne, ville qui est chère à mon cœur puisque c'est là que mon grand-père maternel vivait. Mais le berceau du christianisme, c'est l'Orient. Nous sommes donc frères d'un même berceau. Ceux qui sont jumeaux comprendront de quoi je veux parler. Alors, l'Afrique du Nord, rappelons-le, était chrétienne également avant la Gaule. Alors, dans ce panorama où je vais essayer de vous emmener, pour que vous compreniez, vous allez être assez, et je ne dramatise pas, assez effaré par les chiffres et les données que je vais vous donner. Elles sont là. Et évidemment, la chance que j'ai quand je fais ce métier, c'est au lieu d'être impuissante, c'est de me dire, mais dans le fond, comment je peux faire à la fois en tant que grand reporter, spécialiste des grands entretiens, chrétienne, avec les hauts et les bas et tous les doutes que peut amener une foi, et en même temps, voilà, c'est aller sur le terrain et c'est rencontrer ce personnage. Parce que, évidemment, d'un pays à l'autre, on parle du Proche et du Moyen-Orient, la situation est très différente. C'est pas qu'une question de nombre, ni de proportion, mais c'est de la place que le système leur accorde. Partout dans la région, à l'exception du Liban, les chrétiens sont discriminés. Le Liban est le seul pays dont la religion n'est pas l'islam et dont le principe constitutionnel ne fait pas référence à la charia. Alors, au début du XXe siècle, les chrétiens représentaient un quart de la population du Moyen-Orient. Ils ne sont plus, un siècle plus tard, que 20 millions sur 356 millions d'habitants, dont 5 millions de catholiques répartis en églises de rites différents. Là, si vous voulez, je vous emmène un peu maintenant dans chaque pays. Où sont les communautés chrétiennes, celles qui sont encore présentes, bien qu'extrêmement amoindries? En Irak, du temps de Saddam Hussein, dont vous vous souvenez qu'on le surnommait le grand tyran, et que le monde entier voulait renverser, 1,5 million de chrétiens vivaient en paix, sans exode, avant l'attaque américaine de 2003. Guerre d'Irak commencée par un mensonge et qui s'est terminée par un fiasco. Depuis la première guerre de Bush en 1991, il y a eu plus de 4 millions de morts. Qui en parle? Où sont-ils? Il ne subsiste aujourd'hui que 300 000 chrétiens pour la majorité des Chaldéens. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure la différence entre l'église perse, d'où est issu les Chaldéens. Chrétiens comme musulmans, c'est très important de comprendre ça, ont tout en Irak, et dans le fond pas qu'en Irak, ont toujours placé leur appartenance à la ville. Ils étaient moussouliotes, les habitants de Mossoul, avant même d'être des chrétiens ou des musulmans. Qu'ils soient yézidis, qu'ils soient shabak, c'est encore une communauté traitée d'apostats par les musulmans, ils vivaient ensemble. C'est seulement comme cela que la ville pouvait être stable. Et c'est bien ce que Daesh ou l'AIL, je ne sais pas quel acronyme vous choisirez, a compris. Et c'est bien cela qu'elle a voulu disperser, forcer les chrétiens à fuir, parce que sans eux, Mossoul n'est plus véritablement Mossoul. En Israël et en Palestine, je pense que vous avez sans doute voyagé en terre sainte, on compte 143 000 chrétiens. Il y a à peu près 57 000 chrétiens dans les territoires palestiniens. Ce sont surtout des latins et des grecs melkites. Tout à l'heure, on parlera des melkites. En Israël, c'est le pluralisme, le judaïsme qui prévaut, la montée du fanatisme des extrémistes juifs qui refusent la présence chrétienne en Terre Sainte, inquiète de plus en plus les chrétiens. Dans les pays du Golfe, on trouve environ 3,5 millions de chrétiens de différentes églises, mais ce sont surtout des communautés d'immigrés asiatiques et quelques occidentaux catholiques. Au Qatar, je parlais avec l'évêque maronite du Qatar, les chrétiens sont invisibles. À Doha, il y a une grande communauté d'immigrés pourtant qui vit sa foi sans autorisation de montrer aucun symbole religieux, sans clocher, sans signe extérieur d'un culte. On fait sans la cloche qui nous a réunis tout à l'heure, surtout sans signe extérieur de culte. Soyez invisibles. En Arabie Saoudite, il est possible de dénombrer les chrétiens puisque dans ce pays, toute forme de pratique religieuse est interdite et illégale à part l'islam. Le Coran et la charia sont la constitution. L'apostat, à la différence du Maroc, qui depuis février 2017, l'apostat ne risque plus la mort au Maroc. En Arabie Saoudite, l'apostat risque la mort. En Iran, on trouve une liberté de culte plus grande que dans d'autres pays du Moyen-Orient, mais le prosélytisme leur est interdit. Avant la révolution de février 1979, beaucoup d'Iraniens musulmans s'étaient convertis au christianisme, ce qui est très courageux pour les musulmans. Depuis l'instauration de la révolution, la République islamique d'Iran tolère les minorités religieuses, juifs, chrétiens et les zoroastriens, qui sont vraiment de très anciennes souches, adorateurs du soleil, et c'est une mystique d'ailleurs qui est très intéressante, qui disposent de lieux de culte et sont représentés, eux, au Parlement. 100 000 chrétiens y vivent. En Jordanie, la communauté chrétienne compte environ 200 000 fidèles. Maronites, chaldéens et latins. Ils sont peu nombreux et en faible proportion, mais le fonctionnement de la monarchie hachémite, qu'on appelle un autoritarisme pluraliste, leur reconnaît une place dans la politique et la société. En Syrie, on dénombrait 2 millions de chrétiens en 2008 sur 20 millions d'habitants. Il n'y en a maintenant plus que 500 000. La Syrie est une société musulmane, mais sans religion d'État. Cependant, la religion du président est l'islam. Il faut quand même le dire, les écoles étaient gratuites, les hôpitaux aussi, les mosquées comme les églises ne payaient aucune taxe. On ne l'entend pas souvent. C'est là que se trouvaient les plus anciennes communautés chrétiennes au monde. L'église maronite y a 3 diocèses et le patriarche Raï ne s'est pas gêné pour se déplacer en Syrie alors qu'il a été extrêmement critiqué pour ses déplacements. Depuis la guerre, plus de 12 millions de Syriens, soit 50% de la population, n'ont plus de toit. 3 millions d'enfants syriens ne sont pas scolarisés. Et là, je voudrais vous lire un tout petit passage de la lettre de l'archevêque maronite de Damas, qui est devenu un ami, qui m'écrit régulièrement. Et voilà ce qu'il dit. Une église qui s'interroge. Là, elle est récente, cette lettre, elle a 2 mois. Aucun baptême ni mariage depuis 8 mois. La baisse des sacrements se fait sentir déjà depuis 5 ans. L'absence des jeunes se répercute sur la vie paroissiale. La baisse vertigineuse de la pratique dominicale, du catéchisme, de première communion et des activités pastorales pousse aussi à l'exode, des prêtres réduits au service minimal et au découragement. Ne peut-on pas voir dans ces changements le début d'un crépuscule ? Et c'est l'archevêque de Damas qui le dit. La Turquie, dont on parlera encore mieux avec les conciles qui ont eu lieu sur cette terre. En Turquie, alors que l'actuelle Turquie abritait au début du siècle dernier la plus importante population chrétienne du Proche-Orient, soit 20% de la population, elle ne compte plus aujourd'hui que 80 000 chrétiens, dont 10 000 sont catholiques, arméniens, syriens, chaldéens, soit 1% de la population. Le génocide arménien perpétré en 1915 et le départ massif des Grecs orthodoxes au début des années 20, on se souvient des incendies de Smyrne en 22, expliquaient en grande partie cet effondrement. De par sa constitution, la Turquie est un État laïque, même si l'on ne peut que constater que la société est en voie de ré-islamisation. La liberté religieuse est sous le contrôle de la Sûreté nationale. L'AKP a débuté une campagne contre les chrétiens assyriens, l'église de Perse, comme les Chaldéens. Interdiction est faite aux fidèles de restaurer leur lieu de culte dévasté. Si la minorité chrétienne de Turquie ne subit pas le même degré de violence physique qu'en Irak, en Syrie ou en Égypte, des religieux et intellectuels n'en ont pas moins été assassinés ces dernières années. Il mérite qu'on les cite. Le prêtre catholique Andrea Santoro en 2006, le journaliste arménien Hrant Dink en 2007, ou encore le vicaire apostolique d'Anatolie, Mgr Luigi Padovese, en 2010. autant de dossiers dans lesquels les enquêtes s'embourbent et la justice piétine. Moi, je ne sais pas si vous avez lu cet extrait du New York Times qui a été publié en 1998. La presse s'en fait très peu le relais. Mais voilà ce que disait Erdogan, le maire d'Istanbul à l'époque et chef d'État aujourd'hui. Les minarets seront nos baïonnettes, les mosquées nos casques, les coupoles nos casernes et les croyants nos soldats. L'Égypte est le seul pays de la région à ne pas connaître de baisse significative. Mais le système politique les marginalise et les discrimine. On connaît la réputation et l'influence des frères musulmans, toujours prêts à rendre service pour mieux imposer leur idéologie radicale. Les islamistes voient les chrétiens comme des soutiens de Sissi et les tiennent responsables du coup d'État contre Morsi, qui était leur homme. Daesh, et c'est récent, a fait des chrétiens du Sinaï sa cible prioritaire, obligeant la plupart des coptes à partir. On se souvient, c'est récent, le dernier dimanche des Rameaux, j'étais également au Pays Basque pour faire quelques conférences. On se souvient de ces attentats à Alexandrie et très près de la résidence du pape Tawad Rose II. Les coptes sont en grande majorité orthodoxes. C'est eux qui constituent la plus importante communauté chrétienne, orthodoxe. Faites toujours la différence. 11 millions sur 80 millions d'Égyptiens, dont 225 000 coptes catholiques. Copte, ça vient d'Aegyptos, copte. Et c'est saint Marc qui, en 1943, a évangélisé l'Égypte. Et étonnamment, les reliques de saint Marc sont à Venise. Vous savez que c'est un sujet de querelle entre Venise et le Caire. Les fidèles, donc, de ces 12 églises d'Orient, dont une des caractéristiques majeures est son extrême diversité, comme je le disais tout à l'heure, sont les Coptes, catholiques et orthodoxes, les Syriaques, catholiques et orthodoxes, les Melkites, grecs catholiques, grecs orthodoxes, les Arméniens, idem, les Chaldéens, les Latins, qui sont les catholiques, dont l'Église maronite, la plus latinisée de toutes, car c'est la seule à ne pas avoir de pendant orthodoxe. Je vous en parlerai plus, puisqu'on va parler maintenant de l'Église maronite. Et au Liban, ce pays auquel je suis bien sûr attachée, et où j'ai choisi de me rendre pour comprendre de plus près ce qu'on pouvait faire, et comment on pouvait relayer, et comment on pouvait, dans le fond, accompagner ce Liban, qui est le dernier bastion chrétien. Le pape Jean-Paul II en avait été extrêmement conscient en disant que ça serait un des plus grands tourments de l'humanité si le Liban ne pouvait plus rester un pays chrétien. Eh bien, la diaspora maronite. Au Liban, 4,4 millions d'habitants. On parlera après du problème des réfugiés. Les maronites représentent plus du quart de la population, soit le plus fort pourcentage au Proche et au Moyen-Orient. La diaspora maronite compte près de 10 millions de fidèles à travers le monde, dont 80 000 fidèles en France. Et c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la plus importante communauté catholique d'Orient dans le monde. Ça va, vous suivez? Vous n'êtes pas trop accablés? Voilà, ce sont les chiffres et je préférais partir de la situation réelle, actuelle. Vous savez, dans ce métier, il y a une phrase de Peggy que j'aime beaucoup et qui me suit beaucoup. Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut voir ce que l'on voit. Voilà. Et René Char complétait en disant que la lucidité était la blessure la plus proche du soleil. C'est un choix. Alors, l'Église maronite. L'Église maronite, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a, un lien, donc, comme je l'ai dit, très particulier avec Rome depuis ses origines. Vous allez mieux le comprendre quand je vais vous parler des conciles qui sont extrêmement importants pour comprendre la diversité, la pluralité et le manque d'unité. Elle a une expérience de relation avec l'islam et une habitude de peser sur les décisions de la société civile. Cette église maronite, elle est syriaque d'origine antiochienne. Et c'est important, Antioche, ça va vous parler. Antioche, c'est Antakya, hein, Antakya en turc. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples ont reçu le nom de chrétiens. Et si vous voulez, c'est au... Non, je vous en prie. On était en train de parler, j'ai exposé la situation du panorama des chrétiens d'Orient, je vous en reparlerai à vous si vous voulez. Et là, on parlait de l'église maronite. Cette église maronite, elle est donc de tradition syriaque antiochienne, parce que là, on repart, si vous voulez, dans l'histoire et on voyage. On va se retrouver à peu près au IVe siècle. Au IVe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Voilà déjà trois siècles que les chrétiens sont persécutés, qu'ils sont torturés, qu'ils sont évidemment stigmatisés. Et il y a quand même toute une poignée, évidemment, d'ascètes, d'ermites, d'anachorètes qui vont dans cette Syrie seconde, dont Antioche est la capitale, hein, la capitale de la Syrie seconde. Ils vont se retrouver, il faut se rappeler que c'est Pierre qui a été le premier évêque d'Antioche. Et il va y avoir notamment un anachorète, un homme pour qui le combat spirituel se traduisait par un écart du monde, à tel point qu'il va le concrétiser dans sa vie en vivant près d'un ancien temple païen reconverti en église, et il vivait à Louvert. Et donc ce Maronne, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait, ce Maronne, de par sa foi, parce que c'était un directeur d'âme de grande envergure, va agréger des communautés de chrétiens autour de lui. Pour vous donner une idée vraiment de la qualité sans doute spirituelle de ce Maronne, autour duquel l'église maronite, le noyau dur s'est constitué, Saint Jean Chrysostome, que vous connaissez sûrement, qui a été patriarche de Constantinople, Chrysostome, la bouche d'or, qui a fait d'ailleurs beaucoup d'ombre au couple d'empereurs à Constantinople, puisqu'il a terminé sa vie en exil, il est mort en 407. On a retrouvé dans les archives du Vatican une lettre de Jean Chrysostome demandant à Maronne d'intercéder pour lui auprès de Dieu dans ses prières. C'est vous donner une idée de la qualité et de la valeur spirituelle de Maronne. Donc c'est à ce moment-là, c'est dans ces périodes très importantes. Je vous donne quelques repères parce que parfois les gens compliquent à souhait, c'est pourtant très simple. Il suffit de se pencher sur toutes ces questions. Évidemment, il faut un peu les intégrer et un peu les alimenter. Mais cette période, quand vous entendez parler, par exemple, de 330 à 640, la grande conquête arabe, on appelle ces périodes à la fois des périodes proto-byzantines, paléo-chrétiennes ou romaines tardives. Dès que vous entendez parler de ça, vous commencez à comprendre ce qui s'est déclenché au IVe siècle et qui va être extrêmement important. Donc si on revient vers l'Apamée, puisque c'est une région qui s'appelle l'Apamée, région très fertile car elle est au bord du fleuve de l'Oronte. L'Oronte, c'est un très grand fleuve qui prend sa source dans les plaines très fertiles de la Bekaa. Les croisés en savent quelque chose. Et le fleuve de l'Oronte remonte. Alors les Arabes d'ailleurs l'appelaient le récalcitrant ou le renversé. Pourquoi ? Parce qu'il coule du sud au nord, ce qui n'est pas dans les habitudes d'un fleuve surtout aussi puissant. Il remonte donc le Liban, la côte occidentale de la Syrie, et il va se jeter sur les côtes méditerranéennes en Turquie, région d'ailleurs toujours revendiquée par la Syrie, parce que vous savez que là-dessus, beaucoup de puissances, notamment occidentales, suite aux guerres successives, ont retravaillé toutes ces frontières dans des buts qui n'étaient pas toujours les plus généreux, notamment divisés pour faire des états-nations, mais on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Donc on est là au bord de l'Oronte, et s'agrège une communauté, un noyau dur autour d'un moine, finalement, d'un ascète, d'un ermite, qui va beaucoup déterminer la définition, l'identité de l'église maronite, qui est une église à l'origine monachisme. Monachisme, c'est vraiment, on est dans le monachisme oriental. À tel point que un peu plus tard, je pense que Maronne va mourir en 410, et un peu plus tard, Léon le Grand, qui est le pape du concile Chalcédoine, mais je vais vous en parler, décide de faire construire un monastère parce qu'on est passé de 500 à 600, à 20 000, à 30 000. Et puis l'histoire va vouloir, avec les persécutions, va décider des choses différemment. Donc, l'origine de l'église maronite syriaque, parce que le syriaque, vous savez que l'araméen est la langue du Christ, et le syriaque est ce dialecte, c'est un des dialectes de l'araméen. D'ailleurs, c'est très beau parce que dans les liturgies que je suivais, dans les offices, puisque j'étais avec le patriarche dans sa communauté, eh bien, il y a encore de très beaux textes qui sont dits en syriaque, car un des grands docteurs de l'Église, à savoir Saint Éphrem, a écrit 15 000 vers, tous plus beaux les uns que les autres. Et il surnomme les anges, hier c'était la fête des anges et des archanges, les éveillés du ciel. Et elles sont bouleversantes ces cérémonies parce qu'il n'y a aucune tristesse. Il y a vraiment ces rites orientaux où à la fois vous êtes pris par des sonorités du passé et en même temps évidemment dans une langue que moi je ne possède pas plus l'arabe, même si bien sûr aujourd'hui le rite est fait dans la langue vernaculaire arabe, mais on sent qu'il y a toujours un ancrage dans l'histoire. Et ça, en Orient, vous le sentez terriblement, alors qu'ici, en Occident, on donne beaucoup l'impression d'être un peu déraciné. Donc voilà, l'église maronite, qui a été à l'émergence du Liban, et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, par la grande tradition des patriarches, la croix maronite est une croix à trois branches, le pouvoir juridique, spirituel et temporel. Jusqu'à l'indépendance du Liban, 1943, effective en 1946, les patriarches, et là j'ai vécu avec le 77e patriarche, les patriarches étaient vraiment des chefs d'État. Ce qui d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais ça donnera peut-être l'occasion à des questions tout à l'heure, ne rend pas un entretien facile avec une telle personnalité. Car même si depuis 1943, les patriarches ne sont plus des chefs temporels, ils sont traités comme tels. Et vous ne savez jamais si vous adressez à un homme politique, à un homme du pouvoir, à un homme spirituel, à un chef religieux. En principe, vous savez, en Melkite, on parle des archimandrites. Les archimandrites, c'est les chefs du troupeau étymologiquement, et les patriarches sont des pères et des chefs. Alors, j'ai quand même bien observé que le patriarche Rai, qui est un homme de pouvoir, certes, et qui d'ailleurs a une très grande activité diplomatique dans le monde, est plus un père par rapport à sa communauté, car son autorité est plus en signe qu'en verbalisation. C'est quelqu'un qui induit plutôt qu'il n'impose. Je l'ai vu faire avec tout son entourage, à un poste vraiment privilégié. Mais donc, cette grande tradition de patriarche, alors, elle s'est poursuivie avec ce qui s'est passé, et là c'est clé, j'espère que vous allez vraiment m'accompagner dans ce que je vais essayer de vous dire. Je veux vous parler des quatre premiers conciles. Je vais peut-être même enlever ma veste. Ça va, je ne suis pas trop compliquée. Alors, c'est important parce que vous savez, à un moment donné, les apôtres et les chrétiens ont eu besoin de définir leur foi. Ça part de là. Les chrétiens qui ont reçu leur foi des apôtres, ils avaient besoin de la définir. Alors nous, on a un code civil, il fallait quand même arriver dans une période d'empereur romain. Alors nous arrivons avec un personnage central qui est Constantin, Constantin le Grand. Constantin est le 10e empereur romain. Les 10 premiers empereurs romains n'ont fait aucun cadeau aux chrétiens. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le détailler. Et Constantin vit à Rome. C'est un homme intelligent qui a surtout une mère extrêmement inspirée, Hélène, qui d'ailleurs, quand elle enverra avec son fils ses troupes, inscrira sur le labarum de ses soldats « In hoc signes vinci », avec ce signe « Tu vaincras ». Constantin est un homme intelligent. Qu'est-ce qu'il a compris de ces chrétiens qui sont quand même toujours persécutés? Il a compris que, dans le fond, les chrétiens, à leur origine, étaient assez ésotéristes, très passionnés par le nombre, très passionnés par la monade, qui, pour eux, les menait à l'unité. Or, les empereurs romains précédents fonctionnaient en autorité avec la tétrarchie, trois têtes. Constantin, qui a le goût du pouvoir, et pas que, comprend tout l'intérêt qu'il peut tirer d'un aménagement. Parce que le traité de 313, que certains appellent traité de Milan, je préfère lui donner son sens, le traité de tolérance. Tolérance n'est pas encore l'accès à une religion d'État, comme le christianisme va le devenir. Simplement, on va commencer à tolérer les cultes des chrétiens. Ils seront moins poursuivis, ils seront moins ostracisés. Et petit à petit, au même moment que ce traité de 2000 ans, parce que Constantin est encore à Rome, puisqu'on est en 313, au même moment, les différents rites païens vont commencer à être de plus en plus mis à l'index. Alors, et Constantin comprend bien évidemment que cette masse, c'est quand même une masse, parce que dans le fond, on trouve quoi? On trouve des Hébreux, des Juifs et des païens. Païens d'ailleurs dont l'origine est paysan. Les premiers chrétiens, c'était des gens très simples. Il faut toujours s'en souvenir. Mais voilà, ils n'étaient peut-être pas tous fils de charpentiers, mais enfin, on les trouvait peu chez les notables. Et donc, si vous voulez, Constantin comprend cette masse énorme qui est en train d'émerger. Il va d'ailleurs décider, il se lasse de Rome, en 329, il décide de créer sa capitale, la Nouvelle Rome. Ça prendra 4 ans de travaux, ce qui n'est rien, pour transformer sa ville, qui sera la Nouvelle Rome d'Orient, qui sera donc, comme vous le savez, Byzance, devenue Constantinople. Et je peux vous dire, puisque ma famille est très liée à cette période, que même dans les actes officiels, des années, des siècles plus tard, on continuait dans l'usage à parler de Constantinople, tant Constantin a marqué. Donc, il va s'installer là, et là, on est à l'époque, si vous voulez, on n'est pas encore à la grande scission de 395, Empire romain d'Occident, Empire romain d'Orient. On n'est pas non plus en 476, à la fin de l'Empire romain, par les attaques barbares. On revient donc en 330, où donc Constantin fait de Byzance sa capitale absolument somptueuse, et surtout, un peu avant, va décider, 5 ans avant, de présider le premier concile. Et là, je sais pas, enfin, qu'on soit chrétien ou pas, parce qu'on peut entendre tout ça sous le double prisme religieux ou culturel. Alors, en 315, il y aura 4 conciles, je vous passerai les autres, mais ceux-là sont vraiment déterminants. Le premier concile est le concile de Nicée. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qu'est le « je crois en Dieu ». C'est le symbole du credo. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est donc, vraiment, on revient toujours à ce 4e siècle. Les Nicéens convoquent au moins 250 évêques qui vont arriver des différents patriarcats, d'Alexandrie, de Constantinople, de Jérusalem, de Rome. Et voilà, on va parler de la nature, si vous voulez, la consubstantialité, hein, la conception du père et de fils, de la même nature du père et du fils. Hein. Eh bien, les Ariens sont là, avec à leur tête Arius, qui est un berbère d'origine libyenne, avec tout son courant, l'arianisme, qui n'est pas un courant mineur, puisque Saint-Augustin, pendant près d'une décennie, s'en est inspiré. Et les Ariens vont lever un premier tollé, ça va être les premières divisions, en disant, mais non, consubstantiel au père, non, semblable. Non pas de même nature que le père et le fils, souvenez-vous, c'est votre credo, mais semblable. Tout ça, ça se passe en grec. Et de même nature et semblable, il y a juste une lettre qui diffère, c'est le iota. Et on passera dans l'expression courante, on ne cédera pas d'un iota. Les Nicéens n'ont pas cédé. Ils se sont mis à dos les Ariens, ils se sont mis à dos Arius, ils ne cèdent pas. Premier concile, donc, de 325, qui passe en force. Très important que vous compreniez ça. Puis arrivera en 381, alors Nicée, il faut que je vous dise, aujourd'hui, c'est très important, c'est İznik, en Turquie. La Turquie, elle a une sacrée histoire chrétienne. Alors, en 381, sera convoqué le concile de Constantinople. Au concile de Constantinople, on va échanger sur la nature divine du Saint-Esprit. Il procède du Père et du Fils, où il procède du Père par le Fils. Filio ou filioque? Et à ce moment-là, parce qu'il y a déjà énormément de tendances, Constantin est mort, hein, 337, il meurt, il se convertit d'ailleurs sur son lit de mort, je pense que sa mère était plus chrétienne que lui, mais bon, il meurt en roi chrétien. Eh bien, à ce moment-là, l'évêque Nestorius, qu'on n'avait pas attendu pour ouvrir le concile, n'est pas d'accord avec cette définition. Et il va être anathématisé, on va lui demander de partir en exil. Ça vous donne une idée réellement de ce climat. Ça choque certains patriarches, les scissions commencent à devenir de plus en plus virulentes. On arrive donc en 431, Concile d'Éphèse. Le Concile d'Éphèse, il est important parce que la Vierge représente beaucoup à la fois pour les musulmans et pour les chrétiens. On va parler de Marie Théodokos ou de Marie Christokos. Marie, Mère de Dieu ou Marie, Mère du Christ. Et idem, les controverses théologiques, les discussions, les désaccords, entre tous ces évêques, tous ces représentants des églises orientales. Les scissions vont commencer et elles vont s'amplifier. Pour, alors là, ça va être le bouquet en 451 à Chalcédoine. Je ne me souviens plus, je crois que c'est Ankénoï, en tout cas Chalcédoine aujourd'hui est sur la rive asiatique du Bosphore. Là, on touche au dur du dur, la double nature humaine et divine du Christ. Alors là, ça ne passe pas. Donc il y aura les Chalcédoniens et les non-Chalcédoniens. C'est-à-dire que, d'ailleurs je voulais vous le dire pour Arius, Dieu seul est un créé, donc éternel, Jésus ne peut pas être créé, donc temporel. Et là, pour la double nature divine et humaine du Christ, sans division, sans séparation, puis il y a un autre mot, dans l'unité, eh bien, ça ne passe pas auprès de certains qui réfléchissent, qui apposent d'autres arguments et qui disent non. Nous sommes d'accord pour une seule nature, la nature divine qui englobe la nature humaine, ou nous sommes d'accord, ce seront les monothélistes ou les monophysites, ou nous serons d'accord pour la double nature, mais une seule volonté. Je vous explique tout ça, parce que vous êtes tout à fait en droit de vous demander pourquoi, puisque nous vivons dans un monde où les latins, l'appellation en est devenue catholique, les grecs sont devenus orthodoxes, ça vous permet de mieux comprendre ainsi tout ça, surtout au moment du grand schisme, pourquoi il y a une telle diversité, une telle pluralité dans les églises orientales. Ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de précédents. Donc ces quatre premiers conciles vont beaucoup, beaucoup marquer la chrétienté. Et ce sont aussi ces désaccords qui vont, au moment, si vous voulez, du grand schisme de 1054, quand le légat du pape va excommunier et réciproquement le patriarche de Constantinople et que ça va faire la grande fracture, la grande rupture dans notre histoire de chrétiens, dont il reste toujours des traces, parce qu'à ce moment-là, c'est deux mondes qui vont se fracturer. Le monde latin, avec son esprit plus cartésien, plus juridique, et le monde orthodoxe, plus oriental, plus en intuition, tout en évidemment impliquant ici aussi beaucoup la dimension humaine. Donc vous avez un peu un panorama de ce qui finalement a pu susciter tant de diversité, et malheureusement, parce que là on a fait un bond de 451 Chalcédoine à 1054 au grand schisme, mais est arrivée entre-temps la conquête arabe. Et il ne faut pas s'étonner qu'ils sont arrivés comme un énorme tsunami d'une magnitude incomparable du désert, ces Arabes, ces nomades arabes. Évidemment, ils sont arrivés en terre de désunion, car c'est les grands rêves d'unité dont rêvera bien plus tard, alors là, après la prise des Ottomans de Constantinople en 1453, cet homme extraordinaire, ce philosophe dont je retrouverai le nom mais que j'ai sous la langue, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait tant de diversité. Et ces excommunions, vous voyez, tout est contemporain, l'histoire c'est un grand va-et-vient, rien ne passe vraiment, il faut bien comprendre, sinon on est perdu dans ce qui se passe. Il a fallu cette cérémonie de l'enlèvement en 1964 après Concile Vatican II avec Paul VI qui a convoqué le géant qu'était le patriarche Athénagoras. Et là, il y a eu la cérémonie de l'enlèvement. Parce que ces excommunications, vous imaginez, de 1054 à 1964. À ce sujet, je voulais vous dire aussi qu'Antioche, ce sont les Français qui, en 1938, ont donné Antioche aux Turcs contre l'avis des Syriens. Alors là, je fais une petite parenthèse, mais je crois que ça va vous toucher. J'espère qu'après, je retrouverai mon fil. Moi, j'aime beaucoup ce patriarche Athénagora. C'est un homme qui ne cessait de souffrir et de prier la nuit pour la paix. Il y a une très, très belle prière. Je ne sais pas si vous la connaissez. Est-ce que vous voulez que je vous la lise? Alors, voilà ce qu'il dit. Ce patriarche Athénagoras, il est mort en 1972. Donc, il était temps qu'il y ait cette cérémonie d'enlèvement avec Paul VI. Voilà ce qu'il dit. Il faut mener la guerre, la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmée. Je n'ai plus peur de rien. Car l'amour chasse la peur. Je suis désarmée de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispée sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt, non pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toute chose nouvelle, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Vous voyez la dimension, hein. Alors bien évidemment, j'ai posé la question au patriarche de l'entente aujourd'hui entre les églises catholiques et orthodoxes. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et vraiment, on peut dire que, si vous voulez, au Liban, la question ne se pose pas. D'ailleurs, le patriarche, dans toutes ses fonctions, est également président du Conseil des patriarches d'Orient. Donc, il englobe, évidemment, et il y a un grand souci de plus en plus d'unité. Donc, si vous voulez, puisqu'on revient dans notre vallée de l'Oronte, de la Pamée, on était autour d'une communauté. Le pape Léon le Grand, qui a présidé le concile de Chalcédoine en 451, crée cet immense monastère. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces conciles? Puisqu'il y a maintenant tant de courants, eh ben, les monophysites, les monothélistes vont persécuter. Ils vont persécuter les maronites. Donc, au 7e siècle, les maronites ne pourront plus rester dans cette région. On va incendier et brûler leur couvent. Et à leur tête, le premier des patriarches, Jean Maronne, en 630, ils vont arriver vers l'Illige, au Liban. Et puis très vite, parce que les grandes invasions vont se poursuivre. En quelques mots, je vous redonne les noms des grands envahisseurs. Les Mamelouks, les Abbassides, les Fatimides, les Croisés pendant deux siècles, 1099-1291, chute de Saint-Jean d'Acre. Ensuite arrivent les Mamelouks, les Abbassides, les Fatimides, les Croisés, les Omeyyades, les Abbassides, les Fatimides, les Croisés, les Mamelouks et les Ottomans. Voilà, vous avez à peu près le paysage qui se dessine et qui va recomposer toute cette région du Proche et du Moyen-Orient, bien entendu. Donc les patriarches, c'est très intéressant cette église maronite, puisque c'est quand même sur elle que j'ai le plus travaillé. Le patriarche Béchararaï est le 77e patriarche. C'était dans le fond des évêques. Hein, et qui agrégeaient leur communauté, et ils vivaient au plus proche de leur communauté. Donc ils se sont réfugiés, et ils se sont notamment réfugiés dans un endroit qui est absolument sublime, au Liban, au nord Liban, qui est la Vallée Sainte, qui est une espèce de cathédrale inversée, et qui est, de par ses torrents, de par ses grottes, qui était vraiment le lieu d'exil, je dirais, des ermites et des anachorètes, et de ces petites communautés qui vivaient très serrées et dans des conditions de vie très dures, très rude, avec leur patriarche. Je ne sais pas si vous connaissez la vallée de la Kadisha, ça veut dire saint, et donc ils ont aussi construit leur premier monastère, les monastères de Kanoubine. Ils ont vécu là et ils ont subi toutes ces vagues de persécution, car surtout les Mamelouks, donc après les croisés, et ce n'était pas vraiment des tendres, les Mamelouks les ont pourchassés jusque dans ces régions, et quelques patriarches ont payé le prix fort de leur vie. Et moi qui ai visité beaucoup de ces anciens monastères, il y en a encore de très très beaux, j'ai bien évidemment vu les caches et les grottes dans lesquelles ont caché les patriarches pour être tentés qui puissent survivre. Donc il y a cette tradition d'un patriarche qui est très très près de sa communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui perdure. Et d'ailleurs, il y a une chose assez intéressante par rapport au patriarche Béchararaï, c'est qu'il a été élu, comme le sont tous les patriarches, par le synode de ses propres évêques. D'abord, il a été élu au premier tour à 2/3 de voix, ce qui aurait pu le contenter puisqu'il était élu. Et puis, le lendemain, tous les évêques se sont réunis pour lui offrir l'unanimité, parce qu'il a été élu en mars 2011, au début de ce qu'on a appelé les printemps arabes, vous les appellerez peut-être des hivers, en tout cas, cette tranche cruelle qui s'est ouverte à cette période-là. Et il avait besoin d'avoir le consentement vraiment de ces évêques. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 1732, c'est la création de l'ordre libanais maronite, qui a été vraiment voulu par Clément XII pour que vraiment ces maronites soient le ferment d'une renaissance, tant ils avaient souffert et avaient été persécutés par les différentes persécutions ottomanes. Eh bien, depuis 1732, aucun patriarche moine n'avait été élu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites la différence entre l'ordre séculier et l'ordre régulier. Donc il est évident qu'une personnalité comme le patriarche Béchar Arai, qui est un moine d'origine et un moine montagnard, induit un état d'esprit qui n'est pas le même que ses prédécesseurs. Alors, parce que j'ai beaucoup entendu, on compare avec le prédécesseur, et puis l'histoire du Liban, comme celle du Proche et du Moyen-Orient, n'est pas une histoire simple. Nous sommes en Orient. Et quand même, un homme bien connu a dit qu'il ne faut pas arriver avec des idées simples dans un Orient compliqué. Car vraiment, le Liban, ce n'est pas un pays simple. C'est un pays qu'il faut comprendre de différentes façons. C'est un pays, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est très intéressant. Mais je vous ai parlé déjà de son régime. Mais c'est un pays qui est doté d'un système civil qui sépare religion et État. Voyez, en distinguant, si vous voulez, la théocratie de l'Orient comme de la laïcité. Il se distingue de la théocratie de l'Orient comme de la laïcité en Occident. Théocratie, en Arabie Saoudite, on parle de monarchie théocratique. En Iran, on va parler de théocratie parlementaire. C'est un pays à part, et ça, c'est dû à son pacte national, qui est le pacte de convivialité que quand même les Français, puisque ce pays a été sous tutelle française, la Syrie sous tutelle anglaise, après le grand démembrement, vous savez, de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Il y a eu les accords Sykes-Picot, français-anglais. Ils ont tout simplement pris un crayon, redessiné des frontières, sans doute selon les besoins des ressources que suscitait chacun. Et donc, ça a été redessiné. Mais la Syrie et le Liban étaient des pays frères, cousins germains. Il y a des familles entières qui ont été séparées. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est très, très compliqué, si vous voulez, tout ça. Donc, si vous voulez, avec ce pacte national, avec ce pacte de convivialité, puisque la religion musulmane a pris sur ces terrains chrétiens, eh bien, c'est quand même le seul pays du Proche et du Moyen-Orient où le président est un chrétien. Vous avez vu que Michel Aoun a été nommé, après 2 ans de vacances de présidence, vacances au sens, pas avec un S, mais d'abandon de poste pendant 2 ans, président chrétien, son premier ministre, Saad Hariri, musulman sunnite, et le président du Parlement, un chiite. Alors ça, c'est une exception, c'est-à-dire que nulle part, alors ça c'est vraiment, c'est un fait unique dans le monde, que chrétiens et musulmans cohabitent pour la gestion d'un même État. Et c'est unique dans le monde du Proche et du Moyen-Orient, dans le monde musulman, qu'un chiite adresse la parole à un sunnite au sein d'un gouvernement. Ça, vous le comprenez, ça, hein ? Alors c'est ça que je voulais vous dire, dans tous les pays arabes, sauf au Liban, la religion majoritaire est l'islam, vous l'avez bien compris, et la source de la législation, le Coran. Ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas le cas du Liban. Et ça, c'est très important de le comprendre, et c'est ce que Jean-Paul II a tout de suite perçu. Il l'a non seulement perçu, mais il a fait beaucoup. D'abord, il a cette phrase magnifique quand il dit que tout homme est fils et père de sa culture. Il savait ce qu'il disait. À peine il a posé le pied au Liban, il a compris qu'à la différence des synodes qui ne s'organisent que pour des continents, il allait organiser dans les années 90 un grand synode pour le Liban. Le Liban, pays message. Ça, il a compris l'importance de ce phare, de cette fenêtre ouverte à la fois sur la Méditerranée, donc sur l'Occident et sur l'Orient. L'importance géographique, culturelle du Liban. Ça va, vous suivez ? Alors, les relations France-Liban, là, alors le Liban, si, je voudrais aussi vous dire quand même que le Liban, bah, c'est un pays qui a beaucoup souffert. Il a été, comme vous vous en souvenez, en guerre civile de 1975 à 1990, et il a subi ensuite la tutelle syrienne jusqu'à 2005. Donc c'est un pays, il y a eu des guerres fratricides et des guerres entre chrétiens, des guerres sordides, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot, qui ont divisé des familles, qui ont divisé les villes, qui ont divisé énormément ce pays, des règlements de compte épouvantables entre différentes factions et différentes milices chrétiennes. Il y a un travail de mémoire qui n'est toujours pas fait au Liban, qui est donc douloureux pour chaque Libanais. C'est un sujet qu'on aborde difficilement, et pourtant c'est un sujet important. Et c'est le prédécesseur du patriarche Raï qui a fait beaucoup, beaucoup en 1989 pour créer les accords de Taif, qui ont été extrêmement critiqués parce qu'on a pensé qu'il se soumettait à la tutelle syrienne, mais c'était la seule façon de sortir de cette guerre fratricide, 75-90, cette guerre, et ensuite jusqu'à 2005, la présence de la tutelle syrienne. Souvenez-vous qu'en 2005, assassinat du Premier ministre, que j'avais interviewé d'ailleurs pour le Figaro magazine, Rafik Hariri. En juin, assassinat de Samir Kassir, un de mes grands amis historiens qui évidemment s'opposait à la tutelle syrienne. En novembre, assassinat de Gibran Twini, le fils du grand créateur du grand journal Al-Nadar. Ils ont vraiment, c'est un pays violent. Alors, l'Orient, c'est très particulier. Quand on travaille en Orient, il faut savoir qu'il y a ce charme, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de mots, on s'exprime beaucoup. Il y a donc une hypersensibilité, mais l'autre versant, c'est aussi l'hypersusceptibilité. Donc, vous devez vraiment faire très attention. Moi, j'ai toujours été, non pas sur mes gardes, parce que j'étais quand même en présence d'un homme de grande qualité, certes, un être qui a, comme tout un chacun a ses faiblesses ou ses fragilités, car c'est pas facile aujourd'hui d'être patriarche. Mais en Terre d'Orient, on est en terrain fragile. Voilà, il faut le savoir.
Au cœur du chaos, la résistance d'un chrétien en Orient, c'est le titre de l'ouvrage paru aux éditions Albin Michel, entretien d'Isabelle Dillman avec le patriarche Béchara Raï, patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient depuis 2011, créé cardinal en 2012. Demain à la même heure pour entendre la seconde et dernière partie de cette conférence, enregistrée le 30 septembre 2017 à l'abbaye de Belloc. Rendez-vous la semaine prochaine sur notre antenne, même jour, même heure.